Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la bourse de Riyad en nette baisse après que le royaume a décidé de réduire de moitié sa production de brut à la suite d'attaques de drones sur deux sites pétroliers majeurs. Les États-Unis ciblent l'Iran, précision de Nadine Epstein et commentaire de Jean-Pierre Favennec, spécialiste des questions énergétiques. En Israël, conseil des ministres dans la vallée du Jourdain pour le premier ministre candidat à sa réélection Benjamin Netanyahou. Cette vallée de Cisjordanie occupée qu'il souhaite annexer en cas de victoire aux législatives de mardi prochain. Reportage de Marine Vlaovic. À la fin de ce journal, la face cachée du Globe qui s'intéresse entre autres à une polémique au Portugal sur un projet de musée Antonio Salazar. Projet qualifié d'affront à la démocratie par le Parlement. Échange d'amabilité entre Washington et Téhéran, l'Iran qualifie d'insensé les accusations formulées par leur secrétaire d'État américain Mike Pompeo, tenant la République islamique pour responsable d'une attaque de drones contre des installations pétrolières saoudiennes revendiquées par des rebelles yéménites. Il s'agit, selon la Maison-Blanche, d'une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial. L'Arabie saoudite, en effet le plus gros exportateur mondial de pétrole, annonce que sa production est temporairement réduite de moitié. Constatons d'abord que cet épisode vient nourrir une latente crise diplomatique américano-iranienne. Nadine Epstein.
Tout à l'heure, l'Iran a vivement réagi contre les accusations américaines qui l'incriminent d'être derrière les attaques contre les sites pétroliers saoudiens. Ces remarques, aussi stériles et aveugles, sont incompréhensibles et insensées, a déclaré le porte-parole des affaires étrangères iraniennes, estimant qu'elles avaient pour but de justifier des actions futures contre l'Iran. Riyad a ouvert une enquête et renforcé la sécurité autour de ces deux installations dans l'est du pays. Leurs activités sont momentanément stoppées. Avec un rendement de 5,5 millions de barils par jour, les sites touchés constituent près de 50% de la production totale du géant pétrolier national Aramco. Le royaume a la volonté, la capacité de faire face et répondre à cette agression terroriste, a déclaré le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui a reçu les soutiens de plusieurs pays arabes du Golfe, de l'Égypte et des États-Unis qui accusent explicitement l'Iran. C'est la troisième fois en 5 mois que des infrastructures du colossal pétrolier sont visées. Les rebelles yéménites houthis ont revendiqué l'action et prévenu qu'ils allaient intensifier leurs opérations. Ils affirment agir en représailles aux frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen. La coalition militaire conduite par Riyad intervient depuis 2015 dans la guerre au Yémen qui, selon l'ONU, a provoqué la pire crise humanitaire au monde. Plus de 22 millions de personnes sont touchées.
Deux sites pétroliers de l'Est de l'Arabie ont donc été endommagés. Nul n'est à même, à l'heure qu'il est, d'évaluer l'ampleur des dégâts, mais ces actes auront à coup sûr des conséquences sur le marché. Jean-Pierre Favennec est professeur à Sciences Po, spécialiste du pétrole et des questions énergétiques. Deux sites touchés, Jean-Pierre Favennec, dont la plus grande usine de traitement de pétrole d'Aramco.
Ce site s'appelle Abqaiq, c'est le cœur du système pétrolier saoudien. Et justement, s'il est attaqué, c'est dramatique. Abqaiq, par exemple, il y a pas mal de temps, avait été attaqué justement par des représentants, soit d'Abqaïda, soit de l'État islamique. Et l'attaque était violente, mais la résistance était totale. C'est un site qui est extrêmement bien protégé. C'est peut-être bien sécurisé, mais ça veut dire que les drones en question sont quand même très bien équipés, très capables. Disons que c'est surprenant. Apparemment, il y a des dégâts importants. On ne sait pas qu'elle a entendu des dégâts, on sait qu'il y a des incendies, on ne sait pas combien de temps il faudra pour remettre en état. C'est effectivement très spectaculaire. Quand j'ai entendu ça, j'ai considéré que c'était violent. On est habitué à, depuis maintenant pas mal de temps, à des menaces, le détroit d'Hormuz, etc., etc. Mais il ne se passe pas grand-chose. Alors que là, réduire de moitié la capacité de production de l'Arabie saoudite, c'est réduire de 5% l'approvisionnement mondial. C'est quelque chose qui, normalement, devrait avoir un impact. Alors certes, je pense qu'il y a des moyens de remettre tout ça en état relativement rapidement. On dispose de stocks de sécurité, etc., etc. Mais c'est quand même un événement qui me semble en gravité dépasser ce que l'on a vu, les attaques de pétroliers qui ont eu lieu bien maintenant quelques semaines, quelques mois.
Des propos recueillis par Antoine Geoffin. À 3 jours des élections législatives israéliennes, les deuxièmes en 5 mois, Benjamin Netanyahou a présidé un conseil des ministres en fin de matinée dans une colonie au cœur de la vallée du Jourdain. Le Premier ministre a fait le choix d'apparaître en chef de gouvernement dans cette région stratégique qui représente près d'un tiers de la Cisjordanie occupée, cette région qu'il a promis d'annexer en cas de victoire. Une déclaration controversée destinée à séduire les colons et les plus extrémistes, mais cette annexion est déjà une réalité sur le terrain selon les Palestiniens. C'est un reportage de Marine Vlaovic.
C'est une petite source de la vallée du Jourdain. Elle jaillit au milieu d'un terrain désert, regrette Hamza Zbeidat de l'ONG MAN, qui aide des communautés palestiniennes défavorisées.
Les Israéliens ont construit ici 3 ou 4 turbines et ils pompent l'eau pour les colonies et les avant-postes de la région.
L'eau, mais aussi les terres et les axes routiers. Une grande partie de la région est sous le contrôle d'Israël depuis 1967. Et cette annexion est déjà une réalité, insiste Hamza.
C'est déjà annexé. L'autorité palestinienne ne peut rien faire dans une grande partie de la vallée du Jourdain. Près de 90% des terres sont en zone C, c'est-à-dire sous le contrôle direct de l'armée et des colons.
Une zone où vivent près de 9000 bédouins dans des campements de fortune, comme Alima, qui craint désormais d'être expulsée.
Mais où est-ce qu'on ira? Je vis ici depuis 40 ans. Où est-ce que je vais aller?
L'État hébreu n'a jamais caché son intention de faire de cette région, fertile et stratégique, une frontière militarisée. David El-Riani, qui est à la tête du conseil local des 8000 Israéliens répartis dans une trentaine de colonies agricoles de la vallée, y croit dur comme fer.
La vallée doit être placée sous souveraineté israélienne. C'est une question de sécurité.
Plusieurs pays européens, dont la France, se disent très préoccupés par la promesse électorale de Benjamin Netanyahou.
23 miliciens tués hier dans le nord-est de la Centrafrique dans des combats opposant des effectifs du Front Populaire pour la Renaissance et des recrues du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, deux entités signataires des accords de paix de Khartoum, paraphés le 6 février dernier. Le président sénégalais Macky Sall prend en main l'assainissement de Dakar et demande un audit sur ce dossier qui fait désordre. La capitale est en effet une ville insalubre pendant la saison des pluies jusqu'en novembre. Il y a urgence, 200 familles vont être expulsées de leur maison sans être indemnisées. Des démolitions ont commencé cette semaine. C'est un canal d'assainissement qui est défectueux. L'infrastructure vétuste s'est effondrée plusieurs fois et doit être réparée dans les prochaines semaines. Ce canal qui transporte des eaux usées dégage qui plus est un gaz toxique dans les quartiers qu'il traverse. C'est un reportage de William Delesseux de RFI.
HLM, c'est le nom d'un des quartiers populaires de Dakar. Un quartier traversé par le canal d'assainissement. La pelleteuse des services municipaux est au travail sous une haute surveillance policière. Chérif Diallo est épicier. Sa boutique n'est plus qu'un tas de gravats.
Je ne sais pas trop où je vais aller. On ne m'a proposé aucun lieu pour que je puisse poursuivre mes activités. Ma marchandise est dehors et je ne sais pas trop quoi en faire. Ils auraient pu nous avertir plus tôt qu'ils allaient détruire la boutique et nous donner un lieu où on aurait pu s'installer.
Dans le sous-sol, le canal est âgé de 70 ans. À l'intérieur des tuyaux de béton et d'amiante, du sulfure d'hydrogène, un gaz mortel, se dégage à cause de la décomposition des eaux usées. 7 personnes ont perdu la vie intoxiquées. La rénovation est impérative. Des ouvriers détruisent l'extension de la maison d'Amadou Lamine Diop. L'homme de 64 ans dit lui aussi avoir été mis devant le fait accompli.
Depuis trop longtemps, on avait fait les études et tout. Vraiment, jusqu'à présent, rien. Sans la sécurité, vraiment, tu ne peux pas vivre. Je souhaite être indemnisé. Vraiment.
Et personne ne sera indemnisé, prévient Alioune Badarassan, le préfet.
Un canal est par détermination de la loi relève du domaine public. Donc c'est comme si vous dites que quelqu'un est indemnisé sur la voie publique ou bien sur le chemin de fer.
Le canal aboutit sur une plage devant l'université à l'autre bout de la ville. Sa rénovation ne résoudra pas le principal problème. Sur le rivage, l'odeur est difficile à supporter. Les eaux usées continueront d'être déversées directement dans l'océan sans aucun traitement.
À Hong Kong, de nouveaux heurts ont éclaté entre la police et des milliers de manifestants qui défilaient près du Parlement et du siège de l'exécutif après s'être rassemblés plus tôt dans la journée devant le consulat britannique où ils ont demandé à l'ancienne puissance coloniale de veiller à ce que Pékin honore ses engagements en matière de liberté publique. Il est 12h39, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Le Rwanda va accueillir prochainement 500 réfugiés et demandeurs d'asile bloqués en Libye. Kigali affirme pouvoir à terme abriter temporairement jusqu'à 30 000 Africains dans son centre de transit. Le premier groupe sera composé principalement de personnes originaires de la Corne de l'Afrique. L'accord en ce sens, signé mardi avec l'Union africaine et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, a été qualifié d'historique par l'organisation continentale qui espère que l'exemple sera suivi par d'autres pays africains. Si Washington a pris il y a exactement une semaine la décision d'interrompre ses négociations avec les talibans, la Russie plaide pour leur reprise. Moscou a reçu hier des représentants des insurgés afghans et affirme qu'ils veulent poursuivre le dialogue avec Washington. Le problème est que la poursuite de leurs attaques meurtrières dans le pays n'est pas un signe encourageant. Y aura-t-il un musée Salazar dans la ville natale de l'ancien dictateur portugais en proposant un projet de centre interprétatif de l'État nouveau, le régime que Salazar a fondé? Le maire socialiste de Santa Combadão a suscité une vive polémique au Parlement. La droite s'est abstenue et les historiens évoquent le risque de voir ce centre attirer des nostalgiques de la dictature ou du moins le risque de voir banaliser cette période. Victor Pereira est historien lui-même.
Le Parlement, c'est plutôt une motion, mais il a voté contre en considérant qu'effectivement c'était un affront contre la démocratie et contre les différents prisonniers politiques qui ont subi des tortures et des emprisonnements arbitraires pendant la période de la dictature. Mais donc c'est autour de cette figure de Salazar que s'est cristallisé le débat. La droite s'est abstenue, mais je pense qu'il ne faut pas voir chez la droite, le PSD et le CDS, qui est le parti le plus à droite, une sorte de nostalgisme. Mais néanmoins, les partis qui se disent salazaristes sont très réduits, n'ont quasiment aucune audience. Et l'extrême droite, une partie de l'extrême droite d'ailleurs, n'est pas vraiment salazariste en tant que telle. Donc il n'y a pas vraiment de parti qui représente Salazar. Une des craintes de nombreux historiens, c'est que dans son village d'origine, à Santa Comba, il y a à la fois sa maison où il a vécu jeune, où il y a juste une plaque que certains salazaristes ont placée, qui indique ici a grandi Salazar. Il y a aussi dans le cimetière, quelques plaques qui ont été déposées, mais il n'y avait pas de construction. C'est pas comme Franco qui est à Val de los Caídos. Mais donc, ce village d'origine reçoit quelques nostalgiques. Et donc, ce qu'on a craint, c'est que comme dans le village d'origine de Mussolini en Italie, que ça attire surtout des nostalgiques du régime et que cela participe à une certaine banalisation, voire normalisation de la dictature de Salazar, occultant l'aspect répressif qui lui a permis de rester pendant presque 40 ans au pouvoir.
Des femmes milliardaires, des femmes chefs d'entreprise, mais pas forcément beaucoup de dirigeantes ou de femmes en politique dans la Chine d'aujourd'hui. Roseanne Lake, journaliste américaine, qui était pendant 5 ans correspondante à Pékin, a dressé plusieurs portraits de ces femmes de la génération de l'enfant unique qui arrivent difficilement, assez souvent, à concilier carrière et famille.
La situation des femmes chinoises aujourd'hui, c'est vraiment dû au fait que beaucoup d'entre elles sont des premières générations de filles uniques. Et le simple fait de ne pas avoir un frère pour monopoliser toutes les ressources de la famille, ont fait que les parents qui ont choisi de garder une fille, parce qu'il y en a beaucoup qui ont avorté, ils ont mis une valeur différente sur leur fille, donc au niveau de l'éducation, le fait d'hériter de la propriété, le business de la famille. Plus, quand on mélange ça avec le boom économique après les années 80, cette espèce de tempête un peu parfaite a fait qu'elles ont beaucoup bénéficié. Et surtout quand on prend en compte le fait que les grandes villes en Chine, où la plupart des femmes sont nées, c'est aussi dans ces mêmes villes où la croissance économique était la plus forte. On les voit plus dans les technologies et plus dans la finance. Une des femmes les plus riches de la Chine fabrique pour les téléphones portables le cristal.
Cette ascension économique des femmes, c'est au détriment de la construction d'une vie familiale?
Oui, c'est difficile de trouver un partenaire. Les hommes en Chine, ils ne sont pas habitués à cette espèce de super classe des femmes. Et donc, c'est difficile que ces femmes très diplômées, qui gagnent un bon salaire, trouvent un partenaire. Il y a certaines d'entre elles qui se disent « Bon, je reste avec les hommes chinois, alors je vais essayer. » Et si je n'en trouve pas, bah, je reste célibataire, ce n'est pas grave non plus.
Donc, elles se sont émancipées. En revanche, elles ne rentrent pas dans la politique.
Voilà, et ça fait partie de la grande casse-tête en Chine. Le fait que c'est que des hommes avec des costumes noirs. On voit que ça. Mais il y a quand même beaucoup de milliardaires. Elles ont elles-mêmes fait leur fortune. On se dit, mais si elles ne sont pas représentées dans le gouvernement, comment est-ce qu'au niveau économique, ça marche tellement bien?
Roseanne Lake, au micro de Nadine Epstein, la journaliste américaine, a publié Le casse-tête à la chinoise, mari ou carrière, le dilemme des femmes de l'empire du milieu, aux éditions François Bourin. Suzaman, je ne peux pas me taire en turc. Ce clip de rap de l'artiste Sanizer a été visionné plus de 23 millions de fois sur YouTube. Il s'agit d'une audience rare en Turquie et pour cause, au moment où le pays muselle les voix dissidentes, cette vidéo met en scène une vingtaine de chanteurs et musiciens qui abordent à tour de rôle et avec un ton critique des sujets tels que la pollution, les violences conjugales, mais aussi la liberté d'expression et l'état de droit. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Amel, et à dimanche prochain, le temps de l'après-midi de ce dimanche, instable au sud, bien ensoleillé dans le nord du pays, température maximale qui oscillera entre 18 à 30. 33 degrés. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue, à la technique Julien Calvas.